Clara Zetkin, Annette, était-elle une femme d'abord facile? Est-ce que on l'imagine de ces femmes dures parce que devant s'imposer dans un monde difficile à vivre, comme tu l'as dit? Ou est-ce qu'elle était de caractère très charmant qui faisait tomber toutes les personnes autour d'elle?
Alors, j'imagine pas qu'elle était ce que tu viens d'expliquer en dernier lieu. Mais elle était quelqu'un qui défendait ses idées, qui effectivement était capable probablement de démolir quelqu'un quand elle était convaincue que la personne en face d'elle se trompait ou allait la trahir ou en tout cas n'était pas d'accord avec ses idées. Il y a d'ailleurs un ou deux chapitres consacrés à un certain nombre de discussions et d'oppositions qu'elle a eues avec les féministes allemandes bourgeoises. Parce qu'elle se réclamait d'un autre type de féminisme et elle s'est brouillée avec des femmes qui avaient sûrement aussi de bonnes causes à défendre. Et elle ne se gênait pas pour les traiter d'une manière assez dure. Elle était aussi, comme je l'ai dit au début, dans la ligne d'un parti et elle s'y maintenait d'une manière très, très fixe. Et ça devait de temps en temps provoquer pas mal d'histoires avec les gens avec qui elle vivait. Mais à part ça, elle a toujours gardé des amis très proches. Elle était extrêmement attirée par l'art aussi et elle était sensible. Elle avait toujours envie de convaincre et je crois qu'elle a passé vraiment l'essentiel de sa vie à essayer de convaincre les autres de la justesse de ses opinions. Tout en étant une fidèle adepte du parti, elle était quand même hésitante. Et c'est ça qui fait, à mon avis, une partie du charme de Clara Zetkin, c'est qu'on sent que derrière l'obligation de se ranger derrière les leaders de l'époque, les leaders de gauche, parce que c'était son chemin, elle était capable quand même de s'interroger et de se demander qu'est-ce qui se passait. Alors, j'aimerais juste lire encore un petit passage qui définit bien ça dans le livre.
Juste avant, Annette, est-ce que c'était une femme qui était plutôt une théoricienne ou une femme d'action? Parce que dans l'action qu'elle avait au sein de son parti, quelle part elle prenait à cela?
Alors, je crois qu'on doit dire qu'elle a vraiment travaillé dans les deux côtés. Elle a écrit énormément de choses. L'œuvre de Clara Zetkin, qui n'est pas encore publiée d'une manière intrinsèque, est très importante. Elle a écrit énormément d'articles, voire de livres complets. Et en même temps, elle a payé de sa personne non-stop jusqu'à la fin de ses jours. Elle allait toujours parler elle-même lors de meetings, lors de conférences. Il y avait cette idée de propagande qui était si importante à l'époque et beaucoup moins fort, je trouve, aujourd'hui. Et pour elle, c'était fondamental. Il fallait convaincre notamment les femmes prolétaires de participer à un mouvement révolutionnaire. Et pour ça, il fallait monter les escaliers, les convaincre chez elles, leur expliquer que c'était ci et ça. Et elle l'a toujours fait elle-même. Donc elle a vraiment été à la fois une femme d'action et une théoricienne, sans aucun doute. En 1918, comme en 1928, elle s'interroge douloureusement. Elle l'écrit à Kostia, son fils. Elle le redit à Humbert Drot en mars 1929. Les conflits intimes à propos de la vieille question de Ponce Pilate, où est la vérité ? Que faire m'épuise littéralement. Au fond, Clara Zetkin, même si elle a chemin faisant pris de l'assurance, a presque toujours cherché un mentor, un guide. Engels, Kautsky d'abord, Bebel et Rosa Luxembourg ensuite, Lénine enfin. Hésitante parfois, mais sincère, toujours sincère avec elle-même. Au troisième congrès de l'Internationale en 1921, quand tous les présents lui rendent hommage à l'occasion de son 64e anniversaire, elle se défend. « Je me suis toujours bornée à obéir à ma nature et je ne mérite pas d'éloge. J'ai servi la Révolution parce qu'une nécessité interne m'obligeait à servir la cause de la Révolution. » Alors, je vous présentais une biographie de Clara Zetkin, Féministe sans frontières, c'est le titre de l'ouvrage, écrit par Gilbert Badia et publié aux éditions ouvrières en France.
вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал над помостом, по канату, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры, труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали, а литавр...
Le poète Vysotsky, époux de Marina Vladi. Marina Vladi, que tu nous présentes, Evelyne, maintenant.
Tu sais, je suis arrivée à Marina Vladi, en fait, par un détour à Marina Vladi, écrivaine. Et j'ai trouvé récemment dans un magazine un article sur son dernier livre. Jusqu'alors, je n'avais jamais rien lu de ce qu'elle avait écrit. Je savais qu'elle écrivait, mais j'avais comme une sorte de... pas un préjugé, mais en me disant, oh, c'était une bonne actrice. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimée. Et je me disais, oh, ces actrices qui se mettent toutes à écrire, etc. Et donc, je n'avais pas essayé de lire ce qu'elle écrivait. Et dans l'article de ce magazine, elle disait... dans mon dernier livre, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu écrire contre cette saloperie qu'est la guerre. Et bon, moi, alors là, mes sentiments antimilitaristes de suite se sont sentis renforcés. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est par là que je suis rentrée chez elle et dans son monde d'écrivaine. Et donc, son dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Fayard s'intitule « Le voyage de Sergueï Ivanovitch ». Et c'est un roman, c'est le premier roman qu'elle écrit. Et c'est le voyage initiatique, on pourrait dire, d'un jeune citoyen et d'un jeune soldat russe, biélorusse exactement, et qui est envoyé sans vraiment le vouloir en Afghanistan. Et donc à travers de lui et son histoire, il y a toute la peinture et la dénonciation, d'une certaine manière, de cette guerre que les Russes ont faite peu victorieuse en Afghanistan.
Mais il faut remarquer quand même que, effectivement, je crois, Marina Vladi a écrit en quelque sorte poussée par une nécessité de la réalité. Je ne crois pas que c'est une poétesse ou une écrivaine, justement une romancière née, mais c'est au cours de rencontres qui l'ont choquée, qui l'ont impressionnée, qu'elle se décide à prendre la plume. Et ce livre en est, je crois, un des exemples, non ?
Oui, peut-être c'est l'âge aussi. C'est peut-être une actrice, une comédienne qui veut passer à un autre genre. Bien qu'elle continue à jouer au théâtre. D'ailleurs, je crois qu'elle va jouer La Cerisaie prochainement. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu comme Simone Signoret. N'arrête pas son activité d'actrice, mais se change lentement, disons, de genre. Mais bien sûr, c'est aussi la vie qu'elle a menée, puis les témoignages qu'elle a voulu apporter, peut-être qu'ils l'ont décidé. En tout cas, l'autre livre, ou plutôt, pour revenir, disons, dans l'ordre, une fois que j'ai lu Le voyage de Sergueï Ivanovitch, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur sa vie à elle. Et alors, j'ai lu le livre précédent qu'elle avait écrit, Vladimir ou le vol arrêté, sur son mariage avec le poète russe Vysotsky. Et là, j'ai découvert une autre dimension. Je suis de plus en plus intéressée parce qu'elle écrit vraiment. Et comment j'ai pris aujourd'hui ces deux livres avec moi ? Vladimir ou le vol arrêté n'est pas nouveau, il a déjà été publié il y a quelques années, il est même en livre de poche aujourd'hui. On peut parler de ce livre-là, ou bien commencer par le plus récent, hein, le voyage de ce soldat. Qu'est-ce que tu préfères ?
Moi, je préfère par le plus récent.
D'accord. Alors, Le voyage de Sergueï Ivanovitch, donc c'est un roman. Et elle précise bien, Marina Vladi, que son héros n'existe pas dans la réalité. Mais par contre, on pourrait le rattacher à un type, disons, traditionnel de héros dans la littérature russe, c'est-à-dire ce héros très naïf, très pur, ou ce jeune homme très pur, qui ébloui par la vie, qui a vécu, été élevé dans un cadre enchanteur, et qui se trouve tout d'un coup confronté à une situation pour laquelle il n'a pas été préparé, difficile. Et un peu comme dans les contes russes, dans ce roman aussi, le héros s'en sort à la fin. Il se sort de toutes ces épreuves, non pas victorieux, mais vivant, mûri, blessé, mais beaucoup plus lucide qu'avant, beaucoup plus solide, tout en ayant enfin des cicatrices partout. Et ce genre de héros, on peut le retrouver dans la littérature russe du 19e siècle, beaucoup. Et c'est celui qu'on retrouve ici aussi. Donc on a l'histoire d'un jeune paysan élevé d'une manière, je dirais, très protégée dans un petit village de Biélorussie. Et qui n'est pas élevé par sa mère, car sa mère est morte à sa naissance, mais il est élevé par sa voisine et ses filles. La voisine avait 7 filles, et qui étaient toutes plus âgées que le petit Sergueï, et qui, à tour de rôle, lui ont servi de mère. Donc il dit plusieurs fois qu'il a eu beaucoup de mères adoptives, et toutes ces femmes lui ont donné une grande sécurité dans la vie. Mais évidemment, il ne connaît rien de la vie de l'URSS. C'est encore l'URSS à l'époque dont on parle. C'est dans les années 80 qu'il est parti en Afghanistan. Et c'est une vie très simple, une vie de près de la campagne, enfin de balades en forêt, de récolte de champignons, d'aller à la petite école de campagne, et où on apprend des choses sur la vie, mais en tout cas pas beaucoup sur l'histoire de l'Union soviétique. En tout cas, tout ce qu'on apprend dans les livres, on l'apprend d'une manière, ou disons dans des livres qu'on a expurgés abondamment. Et toutes les guerres du XXe siècle en Russie sont présentées sous un jour assez, manichéen. Et bien sûr, ça n'aide pas le jeune Sergueï à connaître bien son pays. Il arrive à l'âge de 18 ans, toujours encore très, très pur. À l'époque, il est déjà amoureux de la dernière des filles de sa voisine. Et bon, comme tout jeune russe, il doit faire son service militaire. Donc il a 18 ans et bon, un beau jour, il doit partir se trouver dans un village un peu plus important où un camion vient le ramasser, qui l'emmène dans une ville plus grande et puis qui finalement l'amène avec d'autres camarades jusqu'à Moscou. Et là, bon, 3 mois d'entraînement dans un camp. Et on lui demande dans quelle spécialité il aimerait être. Et lui, au fond, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir fini ses 2 ans de service, les 2 ans qu'il doit réaliser, le plus vite possible. Ça lui est assez indifférent. Il finit par se retrouver dans les paras, évidemment un corps d'élite. Et il va être, comme beaucoup de ses amis qui l'accompagnent, dont principalement 2 Biélorusses, qui sont des personnages importants du livre. Il croit, au moment où son entraînement est terminé, être envoyé à défricher des terres au Kazakhstan. Donc il monte dans l'avion en pensant qu'il va au Kazakhstan. Et quand l'avion atterrit, il est à Kaboul. Là, bien sûr, ils ont quand même entendu parler un petit peu de cette guerre. Il pense que c'est une guerre qui se fait d'une manière propre et puis héroïque. On vient défendre là un gouvernement mauvaisement attaqué par de méchants diables. Et il a entendu parler de cette guerre, mais il n'avait surtout pas envie de faire son devoir international, comme on lui dit à sa descente d'avion. Et ses camarades non plus en général. Mais enfin, ils sont là, ils ne peuvent pas refuser. Et ils commencent à faire tout ce qu'ils sont supposés faire. Et finalement, ils vont se retrouver dans un commando sous les ordres d'un sergent extraordinairement sadique. Et ils vont énormément souffrir comme tous leurs compagnons. Toute la partie de la guerre, je dois dire, est décrite d'une manière terrible. Il semble que c'est tous ces jeunes gens qui sont envoyés là-bas. Ils sont envoyés très jeunes, les soldats qu'on a envoyés en Afghanistan. Il y en a 1 million finalement qui a été envoyé dans cette guerre. Ils étaient très très jeunes et la guerre les a vieillis très très vite. J'entends au bout de quelques mois. C'était apparemment, ça a été une guerre tellement dure que ils la faisaient dans des conditions très difficiles, très mauvaises d'alimentation, d'hygiène et tout. Que non seulement beaucoup en sont morts, il y a 50 000 morts de soldats soviétiques dans cette guerre, mais beaucoup vont être handicapés, mutilés, et puis vieillis avant l'heure. Quand même bien, ils peuvent retourner en Union soviétique vivants. Ils retournent, même ceux qui sont entiers, ils retournent oui, extrêmement défaits, vieillis avant l'heure, sans dents, dans des conditions physiques et morales terribles.
Et atterrissant dans une Union soviétique en plein délabrement et décomposition, parce que c'est presque à ce moment-là qu'on a décidé qu'on n'aurait plus besoin de l'armée rouge.
Voilà, et une Union soviétique qui n'accepte pas, au fond, qui ne veut pas parler de cette guerre, qui n'acceptent pas ces soldats qui sont un peu la mauvaise conscience d'une guerre qui n'était qui est aujourd'hui difficilement défendable, qui est un peu le, moi je la comparais au Vietnam des Américains.
Tout à fait, c'est ce que j'allais
parce
dire.
Parce que Marina Vladi la comparait plutôt à la guerre d'Algérie française, mais moi il me semble pas, parce que quand même en la guerre d'Algérie, bon, il y avait des Français en Algérie, il y avait depuis des générations, ils y étaient là bien ou mal. Bon, c'était aussi une guerre évidemment de suite de colonisation. Mais là, elle me semble, la guerre en Afghanistan me semble beaucoup plus comparable à la guerre du Vietnam pour les Américains.
De l'intervention de quelqu'un qui n'a rien à voir avec une région.
Oui, l'intervention de quelqu'un qui n'a rien à voir là-bas, qui connaît, qui comprend pas la culture locale et qui reste qui reste très éloigné de la population qu'il est censé aider, et puis qui se met à faire alors tous les trafics aussi qu'on a vu. Au Vietnam, ils sont décrits là-bas aussi, en Afghanistan, entre autres, trafic de drogue. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, tout en lisant le livre, qui me rappellent des choses lues à propos du Vietnam.
Tu disais tout à l'heure que Marina Vladi dit que son personnage est imaginaire. Mais il me semble avoir entendu, parce que comme toi ou lu, j'ai vu un certain nombre de choses sur son dernier livre, que malgré tout, elle aurait été confrontée à des histoires vraies concernant ces jeunes gens envoyés en Afghanistan.
Absolument. La première idée de son livre est venue après le récit du fils d'un ami. À elle, qu'elle a rencontré lors d'un voyage qu'elle a fait d'un film qu'elle tournait, je crois, en Union soviétique en 1989, qui avait fait cette guerre. Et elle a été profondément remuée par ce témoignage. Et elle a eu envie d'en savoir plus. Elle a obtenu des témoignages d'autres soldats, des bandes magnétiques, des journaux intimes, beaucoup de matériel. Donc elle a des sources tout à fait authentiques. Mais elle a écrit, à partir de là, elle a écrit un roman. Son personnage tel qu'elle le présente, lui, il est fictif. Peut-être que les jeunes qu'elle a rencontrés n'étaient pas aussi candides que Sergueï Ivanovitch. C'était peut-être pas des jeunes paysans. J'imagine que par exemple, le fils de l'ami dont elle parle était certainement un citadin et peut-être même le fils d'un intellectuel. Et il a peut-être servi à d'autres personnages d'inspiration à d'autres personnages du livre. C'est pour ça que on peut quand même dire que ce héros n'existe pas dans la réalité telle qu'il est décrit là dans le livre. Mais elle s'est basée sur des sources tout à fait authentiques et vraies. Et en plus, si on compare son livre avec un autre qui s'appelle « Les cercueils de zinc », écrit par une Russe cette fois, et qui est paru aux éditions Christian Bourgeois, je ne sais pas si j'ai la date, non, je n'ai pas la date, et qui parle d'une partie d'un épisode du roman de Marina Vladik, le retour du soldat au pays natal en accompagnant un cercueil de zinc, c'est-à-dire un cercueil dans lequel on a mis un de ses commandants, bon, un combattant malheureux. Elle dit avoir retrouvé dans le livre de cette Russe qui s'appelle Svetlana Alexeyevitch tout à fait ce qu'on lui avait raconté. Donc on peut, c'est le cas d'un de ces romans, si tu veux, qui nous aide à entrer dans une réalité historique, mais plus facilement parce que c'est par le biais du roman.
Mais tu dis souvent, Marina Vladi a dit ou explique que, est-ce à dire que ça, c'est des choses que tu as lues et entendues d'elle, ou finalement elle le laisse traduire par le biais d'un personnage dans son roman? Comment on comprend par le biais de son roman qu'elle considère cette guerre comme une saloperie de guerre, comme tu le disais au début?
Alors ça, elle le dit dans un article que j'avais lu récemment, je crois que c'était dans l'Hebdo. Mais évidemment, la manière dont elle décrit, et je pourrais peut-être le faire en lisant un petit passage, tout ce qu'elle dit sur la guerre montre bien qu'elle est en aucun cas partisane. Et elle pense que c'est une absurdité qui n'a fait de bien à personne et n'a servi aucun objectif valable. Est-ce que tu voudrais un petit extrait de cette vie? Alors imaginons le soldat Sergueï Ivanovitch qui n'est pas encore tout à fait dégrossi de sa candeur et qu'on a intégré assez vite dans un commando, donc dans les montagnes d'Afghanistan. Alors on va le retrouver là-bas.
Et est-ce qu'on laisserait la voix rugueuse de Vladimir Vysotsky être dessous la tienne?
S'il n'est pas trop puissant, alors ça va.
Non, non, il se fera tout doux.
Le visage enfoui dans la couche de neige sale, Sergueï mord à pleines dents. Il avale avec frénésie les gorgées de gadou. L'eau qui leur manque depuis 48 heures est devenue l'idée fixe de tout le commando. Certains anciens avaient déjà bu le sang de petits animaux lors de missions précédentes. Mais ici, nulle vie ne paraît subsister. Et les hommes, hagards, se sont jetés sur les flaques au pied des névés. À plat ventre, on dirait des bêtes sauvages autour d'un point d'eau. Ils ont la peau brûlée par le soleil, noircie par la crasse. Leurs uniformes ne sont plus que des guenilles qui laissent apparaître leurs corps efflanqués. Alimentés depuis des semaines de choux moisis, de boîtes de poissons avariées, tous ont depuis longtemps perdu la force de leurs 20 ans. Certains ont la bouche édentée, ce sont les vieillards, ceux qui ont su résister, qui n'ont pas été tués. Ils sont 3. Leur expérience les condamne à subir encore de longs mois de calvaire. Ils sont les seuls à bien connaître la région, à discerner les embûches semées au long des sentiers, à deviner un puits empoisonné, à déchiffrer un objet insolite posé sur le sol, mais qui constitue en fait un code à l'usage des moudjahidines. Surtout, ils ont avec eux le dernier chien anti-mine à ne pas avoir été encore sacrifié. Vieux, mâle, borgne, il est devenu une légende vivante dans la sombre chronique des commandos disciplinaires. Embarqué avec son maître, il a montré dès les premiers combats une extrême sensibilité à tout ce qui est explosif. Sa queue dressée à la verticale signifie « danger imminent ». Une patte levée à l'arrêt indique avec précision l'emplacement de la mine, même enterrée à grande profondeur. Il a sauvé plusieurs dizaines de convois voués à sauter sans aucun survivant. Se traînant à sa suite, tout le groupe s'est arrêté devant les premières plaques de neige. L'ours, surnom qui lui fut donné lorsque jeune chiot il ressemblait à une peluche, s'est affalé, le ventre collé à la terre humide. Lui aussi lape avidement le filet d'eau boueuse qui filtre du rebord neigeux. Les hommes ont ôté leurs chaussures, tous ont les pieds en piteux état. Certains essayent de les recouvrir de papier pour que les blessures ne collent pas au tissu. D'autres ont enfoncé leurs jambes jusqu'aux mollets dans la boue fraîche. Le soulagement les fait presque sourire.
Осталось недорешено все то, что он не дорешил. Ни единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать.
Vladimir ou le vol arrêté, c'est le nom de l'autre livre écrit par Marina Vladi dont tu voulais nous parler. Evelyne, malheureusement, nous n'avons guère le temps. Nous entendons en ce moment la chanson chantée par Vladimir Vysotsky qui s'appelle « Le vol arrêté ». Et peut-être tu peux nous rappeler le titre de ce dernier, premier roman et dernier livre écrit par Marina Vladi dont tu nous as parlé aujourd'hui.
Oui, mais d'abord je voulais juste dire qu'elle rend hommage aussi au poète dans ce dernier livre. Chaque chapitre se termine par une strophe de Vysotsky et en exergue aussi, elle en a mis une qui convient, disons, à ce livre sur la guerre et qui dit « Nous devons semer de sel nos plaies vives pour que la douleur perpétue le souvenir ». Ça, c'est Vysotsky qui l'a écrit. Donc, j'avais parlé du livre de Marina Vladi, Le voyage de Sergei Ivanovitch, publié chez Fayard en mars 1993. Et puis de Vladimir ou le vol arrêté, aussi de Marina Vladi, qu'on trouve en poche.
Alors, merci. Merci, Evelyne. Et on se retrouve dans un mois, j'espère, pour d'autres livres à découvrir.
Absolument. À bientôt.
И шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда, сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим.
Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était Onde Femme, Radio Zone 93.8. Mais Onde Femme, ça continue avec les informels de Radio Pleine Lune dans quelques minutes. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, certainement, avec des nouvelles que nous vous rapportons entre Viviane et moi du dernier Festival international de films de femmes de Créteil.
Хоть тоннель по дну реки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки. Разбег, толчок, и стыдно подниматься, во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12. Мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь.